France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 22 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, carnaval à Marseille, rassemblement à Annecy. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue hier pour des manifestations sans masque, non autorisées. Épiphénomène ou signe d'un ras-le-bol de la population face aux restrictions sanitaires. Reportage, réaction des personnels soignants. Dès le début du journal, après les autres titre Agnès.
Le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter. Quel est le profil de ces nouveaux malades? L'analyse de Véronique Julia. Quand ce sont les patrons qui refusent le télétravail, nous irons à New York où la vie reprend petit à petit. Aujourd'hui, ce sont les lycées qui rouvrent. Encore un tiers des habitants de la planète n'a pas accès à une eau potable de qualité. C'est la journée mondiale de l'eau. Et puis 99-100, centième but pour Kylian Mbappé en Ligue 1.
Wow.
Et à la clé, un PSG qui retrouve la tête du classement.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Oui, réunion sur la santé mentale aujourd'hui à Matignon. L'exécutif craint la déprime et l'effondrement psychologique des Français et surtout des jeunes avec ce troisième confinement. Elle a fait entrer il y a un mois la psychiatrie au sein du conseil scientifique. La pédopsychiatre Angèle Consoli sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec donc l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Il publie cette semaine Pas une goutte de sang français aux éditions Grasset. Vous pourrez évidemment dialoguer avec lui. 01 45 24 7000.
France Inter.
Un exutoire pour les uns, un acte totalement irresponsable pour les autres. Le carnaval hier après-midi dans les rues de Marseille a provoqué de nombreuses réactions. 6500 personnes, en majorité des jeunes, non masquées, s'étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux pour une manifestation sans autorisation et dispersée en fin de journée par les forces de l'ordre. Reportage de Philippe Bocara.
Et à 19h, pour faire appliquer le couvre-feu, les CRS interviennent pour dégager l'immense place Jean Jaurès. Plusieurs milliers de fêtards sont regroupés après leur déambulation, beaucoup très éméchés, et un faux Didier Raoult m'interpelle.
Les soldes, c'est interdit. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir cet espace de liberté, de faire une farandole, un carnaval en bonne et due forme?
À cause de la pandémie.
Soit. Mais est-ce que c'est ici que l'on va se contaminer le plus?
À côté de lui, Christelle avec son masque en tête de sardine.
Ça fait quand même plaisir que ça y soit là cette année. Même si ça peut être dangereux, tout le monde doit faire attention.
Sauf que personne ou presque ne porte le masque anti-Covid. Ce carnaval, un exutoire pour Sabine, 22 ans.
Ça faisait un bien fou d'avoir de la musique, des costumes. C'était incroyable d'être là et de pouvoir être dans un bain de foule. Même si c'est interdit, oui, on était quand même tous masqués parce que c'est un carnaval.
Et comme l'affirme Paul, étudiant en médecine, ici il n'y a que des jeunes, pas des seniors fragiles. On ne risque rien.
Reportage de Philippe Bocara de France Bleu Provence. 7 personnes ont été interpellées après des dégradations et des violences contre les policiers. Et puis scénario similaire à Annecy. Près d'un millier de personnes rassemblées hier après-midi sans masque et sans respecter de distanciation sociale. Baptisé le printemps des libertés, le mouvement dénonçait, je cite, la dictature sanitaire qui dure depuis un an. On ne risque rien, disait à l'instant un des participants à ce carnaval marseillais. Des mots qui ont fait bondir les professionnels de santé. Patrick Pelloux est le président de l'Association des médecins urgentistes de France.
Il faut voir si ce carnaval qui a eu lieu à Marseille va avoir les mêmes conséquences que ce qui s'est passé à Nice et à Dunkerque, où en fait ces regroupements relancent l'épidémie. Ça, c'est intéressant. J'ai vu comme vous les images où personne ne portait de masque. Ça, c'est contestable parce que l'épidémie est encore là. Il y a une grande souffrance au niveau des hôpitaux. Espérons que la population comprenne le fait qu'il ne faut pas se regrouper, qu'il ne faut pas être comme ça en masse dans certains points. Espérons, sinon, de fait, ils seront obligés d'aller plus loin dans le confinement.
Un propos recueilli par Catherine Potier. L'inquiétude dans les services hospitaliers est d'autant plus forte que les chiffres restent élevés. Plus de 30 000 nouvelles contaminations et un taux de positivité des tests à 8%. Près de 26 000 malades hospitalisés, dont 4 406 en réanimation. Alors, qui sont ces patients gravement atteints? Certains professionnels ont alerté sur des cas plus graves, plus jeunes et nécessitant un séjour plus long en réa. En fait, Véronique Julia, on manque encore de recul et d'enquête sur cette troisième vague, mais certains certaines hypothèses apparaissent.
La vaccination des plus âgés commence à porter ses fruits. Les patients qui relèvent de la gériatrie sont moins nombreux. Ceux des EHPAD, en tout cas, qui de toute façon n'étaient pas envoyés en réanimation, ont disparu. Pour le reste, on a parlé de plus de femmes. Il semblerait que ce constat reste assez marginal. Plus jeunes, oui, assurément. Aux hôpitaux de Paris, les 40-50 ans, qui représentaient jusqu'à présent moins de 9% des patients de réanimation, constituent désormais 14% des effectifs. En Seine-Saint-Denis, un réanimateur constate même que la semaine dernière, un quart de ses patients avaient moins de 50 ans. La plupart restent malgré tout des sexagénaires, obèses, diabétiques et hypertendus. Les séjours sont-ils plus longs? Les chiffres semblent l'attester, avec un séjour moyen de 15 jours désormais au lieu de 12. On a aussi beaucoup de jeunes qui arrivent avec une dégradation très rapide, explique un infectiologue. Ils arrivent à l'hôpital et vont direct en réanimation. Il y a quelques semaines, une étude britannique avait montré que le variant anglais était 1,6 fois plus grave que le virus original. En France, une étude est en cours pour tenter d'évaluer dans quelle mesure les profils ont changé. Elle devrait bientôt sortir. En tout cas, on a changé d'épidémie, confie un médecin. Et c'est pourtant maintenant, alors qu'elle est plus compliquée, qu'on prend les mesures les moins strictes.
Le nouveau profil des patients en réa, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Mesures effectives dans 16 départements, donc, depuis samedi, avec notamment une attestation obligatoire pour franchir la limite des 10 km. L'exécutif a également insisté sur le télétravail, recommandé 4 jours sur 5, mais sans obligation. Et certaines entreprises, visiblement, traînent des pieds. Marion Pépin a joint deux salariés qui voudraient bien, eux, télétravailler.
Anna, 27 ans, travaille dans une entreprise qui organise des défilés de mode. L'activité est à l'arrêt en ce moment. Elle n'a que des dossiers administratifs à traiter. Elle pourrait le faire à distance et pourtant son patron l'oblige à venir travailler 5 jours sur 5, ce qui la rend furieuse.
Il pense que les pauses déjeuner sont faites à rallonge, qu'on s'adonne à d'autres activités que le travail, comme du sport chez soi ou le ménage, etc. C'est simplement qu'il ne peut pas surveiller pleinement le travail qui est fait. C'est presque gênant de savoir que son directeur pense que si on est chez soi, on ne fait rien. J'ai une connexion qui est parfaite chez moi, j'ai un espace de travail, je pourrais mener à bien mes missions, mais malheureusement ce n'est pas entendu du côté de la direction.
Même dans les services de ressources humaines, les consignes gouvernementales ont du mal à être respectées. Étienne travaille au RH dans un grand groupe industriel. Il est sur site quasiment tous les jours.
La majorité du temps, je peux faire mon travail de chez moi. Je n'ai pas la nécessité tous les jours de venir sur site, notamment à tout ce qui est rédaction de courriers, que ce soit de contrats, qui nécessite juste en fait d'être sur des traitements de texte purs et durs. Donc il n'y a pas la nécessité d'être sur place pour parler avec les collaborateurs.
Étienne souhaite que son entreprise respecte un peu plus les recommandations du gouvernement. Il espérait même un confinement plus strict pour bénéficier du télétravail obligatoire.
France Inter, il est 7h07. Citation, nous pourrons atteindre une immunité collective en Europe d'ici le 14 juillet grâce à la vaccination.
Déclaration hier soir de Thierry Breton. Le commissaire européen estime que 300 à 350 millions de doses pourront être livrées à l'Union européenne d'ici fin juin. Nous l'entendrons dans le journal de 7h30. Pour l'heure, en France, près de 6,2 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 9,2% de la population. Et le gouvernement entend accélérer cette campagne avec notamment la mise en place de vaccinodromes, 1 à 2 par département, avec le renfort de l'armée, les premiers dès la fin du mois. Le détail dans la chronique de Dominique Seux à 8h moins le quart sur Inter. Et à New York, c'est plus d'un quart de la population qui a déjà reçu au moins une première dose de vaccin. Les restrictions sont donc levées petit à petit avec aujourd'hui la réouverture des lycées publics. Nouvelle étape d'un retour à la normale qui se précise. Reportage à New York de Loïc Loury.
Ron est prêt, dit-il, et il est impatient d'aller se faire vacciner. Ce sera demain pour ce gérant d'un bar du Queens qui savourait hier le retour du beau temps et des clients.
C'est le premier jour du printemps. On ne pouvait pas rêver meilleur symbole. Tout le monde est dehors, vivant. On est reconnaissant, vous voyez. C'est merveilleux.
Les bars et restaurants ont rouvert pour la Saint-Valentin, les cinémas depuis 2 semaines, les musées en attendant les lycées ce matin, à chaque fois avec une jauge réduite. Mais qu'importe, New York retrouve des couleurs. Brigitte, venue de Boston, s'apprête à visiter le Met Museum à Manhattan.
Ça a été une année difficile et je crois que tout le monde a vraiment envie d'être dehors pour profiter de la ville à nouveau. On a été enfermés dans notre appartement si longtemps, il est temps de sortir.
Retour à la normale en vue, mais pas encore tout à fait, tempère Eganam, musicien de Broadway avant la crise, il joue désormais des airs de Disney à Central Park. Je dirais que c'est du 50-50, c'est bizarre de continuer à voir des masques et puis les accolades, se serrer la main, il n'y a plus tout ça. Ces petits gestes qui nous rendent humains, nous permettent de nous connecter. Quant à remonter sur scène, il ne veut pas y penser. Broadway, qui faisait travailler près de 100 000 personnes, restera à l'arrêt, a priori jusqu'à l'automne. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et ambiance bien différente en Allemagne. Angela Merkel réunit cet après-midi les présidents de région. Le confinement partiel actuel pourrait être prolongé jusqu'au 18 avril.
Il est 7h10, l'accès à l'eau potable, toujours aussi difficile dans certains pays.
Des inégalités criantes en cette période de pandémie où se laver les mains est l'un des éléments clés de la lutte contre le Covid-19. En cette journée mondiale de l'eau, les ONG et les agences de développement tentent une nouvelle plus d'alerter. Célia Kiré.
30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, 40% de la population ne peut pas se laver les mains à domicile avec du savon, et ce pourcentage monte à 70% dans les pays les plus pauvres, alerte Céline Robert. Elle est responsable de la division eau et assainissement à l'Agence française de développement.
Le Covid, il vient se surajouter en fait à une situation sanitaire qui n'est pas satisfaisante, et il met en lumière une fragilité existante. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à un service d'assainissement adapté, à la fois pour protéger les populations et pour protéger l'environnement.
Or, en temps de pandémie, l'eau est encore plus cruciale. Camille Romain-Desbaud de l'ONG Vision du Monde en appelle aux États.
La situation, en fait, s'est dégradée avec des tensions sur l'accès aux points d'eau et une impossibilité à pouvoir respecter les gestes barrières quand on se retrouve autour du puits assez nombreux et que voilà, les distances de plus d'un mètre sont bien évidemment très compliquées à respecter.
Depuis les années 2000, près de 3 milliards de personnes ont pu bénéficier d'un nouvel accès à l'eau, mais 2 milliards restent toujours privés d'installations sanitaires. Depuis 10 ans, le droit à l'eau et à l'assainissement est pourtant considéré comme un droit humain fondamental, mais il faudrait pour cela investir plus de 110 milliards d'euros chaque année, selon la Banque mondiale.
C'est Liakiré. Enfin, un doublé d'Mbappé, voilà le PSG de retour aux commandes de la Ligue 1, profitant, il est vrai, de la victoire surprise de Nîmes à Lille 2-1. Les Parisiens ont donc battu les Lyonnais 4-2 hier soir en clôture de la 30e journée. Le PSG, une nouvelle fois emmené par son buteur qui a 22 ans seulement, a signé hier soir ses 99e et 100e but en Ligue 1. Alexandre Vaux.
Ce 100e but, voilà plusieurs jours déjà que Kylian Mbappé attendait de le marquer. Mais c'est encore plus savoureux de le signer dans un grand rendez-vous comme hier, a confié après le match le buteur parisien.
C'était une bonne date pour mettre le 100e but. Je savais déjà que j'étais à 2 buts. C'est bien, la route continue, elle ne fait que commencer. Voilà, j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour me perfectionner, pour m'améliorer, donc je pense que ça peut que aller mieux.
Avec 20 réalisations déjà cette saison, Mbappé est de loin le meilleur buteur de Ligue 1, une performance saluée hier soir notamment par le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui espère bien prolonger et rapidement maintenant l'international français.
Si on voit la dernière prestation de Kylian, c'est vrai que c'est incroyable. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat, mais bon, comme on a dit, on va arriver au moment qui sûrement sera plus clair par rapport à son futur.
En attendant, celui qui est déjà le troisième meilleur buteur de l'histoire du club reste concentré sur ses objectifs perfectionnistes. Il revisionne ses matchs. Mes buts, je les connais par cœur, a souri hier soir Kylian Mbappé. Lui qui, paraît-il, compte même ses buts inscrits à l'entraînement.
Au classement, donc le PSG ce matin est en tête devant Lille grâce à une meilleure différence de but. Lyon est troisième. En attendant le choc, PSG-Lille, ce sera le 3 avril.
Agnès Soubiran, merci. Dans 3 minutes, c'est le Zoom. Aujourd'hui, sur l'indéboulonnable Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.